Bonjour tout le monde, je suis Imran et je suis au Novomax. Dans le cadre de ces 10 ans, la salle de musique actuelle se questionne aussi sur son univers en constante évolution, notamment à travers ses modes d'écoute et la diffusion du travail des artistes. Pour les gens de ma génération, nés en 2000, pendant longtemps, écouter de la musique, ça a été aller acheter une cassette ou un CD. Puis, en résumant à très gros trait, avec la démocratisation d'Internet, on a commencé à télécharger de partout des sons, et souvent illégalement. Et puis, depuis quelques années, de façon un peu coupable, on en parlera peut-être, pour écouter de la musique, on s'inscrit sur des plateformes de streaming, des grands groupes, Spotify, Deezer ou Tidal par exemple. Mais quel bouleversement cela engendre et comment cela peut nuire ou pas à l'émergence de nouveaux artistes? Une conférence au Novomax peut permettre de répondre à ces questions, streaming musical et stratégie digitale, avec Sylvain Texier. Bonjour.
Bonjour.
Donc tu es compositeur.
Tout à fait, ouais.
Et donc premier concerné par ces bouleversements que j'ai évoqués.
Ouais, exactement.
J'étais un peu rapide dans ma présentation, mais comment tu aurais envie de résumer l'avènement du streaming musical, on peut dire?
L'avènement, c'est un peu compliqué, mais ça s'est fait assez doucement, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on ne peut pas passer à côté, quoi. Clairement, qu'on soit musicien ou audiophile, si on veut vraiment écouter de la musique sans avoir à acheter de CD ou de vinyle, il faut passer par une plateforme de streaming, quoi.
Alors pour l'utilisateur, ça peut paraître vraiment anodin de juste s'inscrire sur Spotify ou Deezer pour écouter de la musique, mais côté artiste, en réalité, qu'est-ce que ça change dans sa façon de faire?
C'est vrai que nous, ça a eu c'est un grand changement, quoi, quand même, ces plateformes de streaming. Moi qui suis de la génération, moi je suis né en 84, donc quand j'ai commencé à faire de la musique, en écouter en tout cas, c'était effectivement des cassettes que je louais à la médiathèque de ma ville. Et puis après sont arrivés les CD. Évidemment, j'ai aussi écouté les vinyles de mes parents, mais à l'époque, c'était surtout les cassettes et les CD. Et puis, oui, c'était une façon différente de consommer la musique. C'était aussi, il y avait beaucoup, beaucoup moins d'offres, évidemment, puisque aujourd'hui, tous les artistes peuvent mettre, moyennant finance, leurs titres sur Internet, sur les plateformes de streaming. Donc, oui, ça a changé dans la consommation. Et dans ce que nous, les musiciens, voulons faire aussi, parce que à l'époque, pour pouvoir sortir sa musique, il fallait quand même être signé sur un label. Il y avait beaucoup de musiciens, il y avait très peu de labels, donc c'était presque un rêve inatteignable. Aujourd'hui, c'est un rêve que tout le monde peut atteindre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a à peu près 120 000 titres qui sortent par jour sur les nouveaux titres, hein, qui sortent par jour sur les plateformes de streaming. Alors, on parlera peut-être d'IA un petit peu, mais c'est pas la plus grosse partie. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de titres qui arrivent chaque jour.
Sur le modèle économique, ça change aussi, puisque c'est clairement les plateformes de streaming qui gèrent, en fait. C'est pas les artistes.
Non, ouais.
Que faut-il retenir en fait de ce modèle? Comment tu l'analyses?
En fait, c'est pas tout à fait les plateformes de streaming qui gèrent, parce qu'il y a entre les artistes et les plateformes de streaming, il y a une entreprise entre guillemets qui s'appelle un distributeur ou un agrégateur. Alors on va utiliser le terme distributeur, ça va être plus simple pour se repérer. Mais voilà, le distributeur, c'est quelqu'un qui fait le lien entre l'artiste et la plateforme de streaming. C'est cette entreprise qui permet de d'uploader, de télécharger ces morceaux sur les plateformes de streaming. Donc déjà, il faut cette entité, cette entreprise entre nous et les plateformes de streaming. Et alors, je sais plus ce que c'était ta question.
Là, c'était comment en fait on analyse ce modèle. Est-ce que pour un artiste, c'est lisible en fait de comprendre comment en faire?
Ça devient plus ou moins lisible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes sont un peu perdus. En tout cas, les nouveaux artistes savent pas trop, parce que il y a une offre de distributeurs ou d'agrégateurs entre guillemets qui est énorme aujourd'hui, donc voilà, qui propose plus ou moins les mêmes services à quelques petites différences près, mais il faut faire un choix, il faut savoir vers lequel se tourner, c'est compliqué. Ou encore, il y a toujours la bonne vieille méthode de signer sur le label, hein, ou de créer son label. Mais dans tous les cas, il faut passer par un distributeur. Alors souvent, le label, quand on signe sur un label, le label a déjà son distributeur. Donc c'est plutôt le label qui gère la relation avec les plateformes de streaming. Mais aujourd'hui, la plupart des artistes signent eux-mêmes chez un distributeur et se débrouillent vraiment tout seuls pour mettre les morceaux sur les plateformes. Donc, c'est un modèle économique comme un autre, sauf que aujourd'hui, l'artiste doit le faire seul. Enfin, la plupart des artistes le font seul. Et des fois, ils y voient pas très clair dans toutes les offres. Mais c'est un modèle économique qui peut être intéressant parce que les artistes, certains artistes n'auraient jamais signé en maison de disque il y a 20, 25 ans, quoi, 30 ans. Parce que l'offre c'était une sélection drastique d'artistes. Aujourd'hui, celui qui veut mettre sa musique sur le net, sur les plateformes de streaming, peut le faire. Moyennant finance, hein, c'est un abonnement par mois ou par an, tout dépend, ou par sortie. Enfin, bref, il y a différents schémas, mais la personne qui veut mettre ses morceaux peut le faire aujourd'hui.
Il y a aussi une autre question qui rentre en jeu, c'est la question de la rémunération. En ce moment, il y a un mouvement international qui incite à fuir Spotify. Tout à l'heure, je disais que parfois, on avait un peu une manière coupable de rester sur les plateformes. En tout cas, parfois, un questionnement interne. Donc voilà, ce mouvement qui demande aux utilisateurs des plateformes de streaming de s'en aller et puis de se tourner vers des plateformes avec un mode de rémunération qui serait plus juste. Bon, c'est quoi le problème en fait avec la rémunération des plateformes de streaming pour les artistes ? S'il y en a un.
Oui, il y en a un. Évidemment, il y en a un parce que la musique est disponible pour tout le monde via des abonnements. Alors souvent, des fois en gratuit avec de la pub. Mais aussi via des abonnements mensuels qui sont pas très très chers, en tout cas pour Spotify, Deezer, tout ça, c'est pas très cher. Et en fait, les artistes considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérés, Spotify utilise nos morceaux pour faire de l'argent. Et nous, on récolte vraiment très très peu, quoi. C'est de l'ordre de, pour que les gens se rendent compte, c'est de l'ordre de 0,003 centimes par écoute. Et sans la marge distributeur, hein, parce que évidemment, le distributeur qui fait le lien entre l'artiste et la plateforme prend une part. Hein. Alors, pas toujours. Alors, le distributeur prend une part, c'est un peu complexe, mais le distributeur prend une part, mais l'agrégateur, lui, n'en prend pas. Parce qu'il prend, il prend un abonnement.
D'accord.
Donc, en gros, l'agrégateur permet aux artistes de mettre leurs morceaux sur les plateformes moyennant entre 20 et 40 euros par an. Quand les titres sont lus sur la plateforme, l'artiste touche 100% des droits, dans la plupart des cas. Mais quand on signe chez un distributeur, c'est souvent un label qui signe chez le distributeur et non pas un artiste. Là, pour le coup, le distributeur prend une marge. Voilà, une petite marge. Mais lui ne prend pas d'abonnement par an. Donc voilà.
Dans quelle mesure, puisque là on va entrer dans une autre question, mais qui est la question propre aux plateformes de streaming, qui est d'avoir leur propre système de diffusion des artistes, dans quelle mesure les algorithmes de recommandation de Spotify, de Deezer, de Amazon Music influencent la découverte des artistes, et est-ce que ça peut nuire à l'émergence de nouveaux artistes ?
En fait, il y a du bon et du mauvais dans les algorithmes. Effectivement, l'algorithme peut vous proposer parfois des choses que vous n'auriez pas forcément écoutées. Mais dans le style que vous écoutez le plus. Si vous écoutez beaucoup de pop française, il va vous proposer de la pop française. Et il ne va pas aller chercher trop ailleurs, en fait. C'est un peu le reproche qu'on peut lui faire. Donc, oui et non, en fait, on peut faire des découvertes avec l'algorithme, mais pas suffisamment, en fait. Pas, si on s'en tient qu'à l'algorithme, on n'ira jamais chercher des choses dans des styles très très différents de ce qu'on écoute habituellement.
Donc ça peut un peu enfermer chaque utilisateur dans un genre,
oui.
Et pas permettre à des artistes, par exemple, qui feraient... un genre peut-être
oui, par exemple, un peu similaire,
pas très populaire,
mais en anglais, voilà, ou moins populaire, de sortir un peu du lot. Mais c'est, encore une fois, les algorithmes, il n'y a pas que ça, quoi. L'utilisateur aussi doit aussi chercher un petit peu à trouver. Mais c'est vrai qu'on est noyé par les morceaux. Hein. Enfin, clairement, il y en a 120 000 qui sortent par jour. Clairement, on ne peut pas tout écouter. Mais l'utilisateur qui aime faire des découvertes, lui, en tout cas, va aller chercher, hein, en général, des nouvelles choses.
Et puis, évidemment, aussi, la presse.
Oui.
Sortir, enfin voilà.
Il y a toujours les trucs qui marchaient il y a 20 ans, c'est sûr. mais aujourd'hui, quand on est écouté, en tout cas quand on est artiste, les plateformes, c'est quand même un moyen de faire découvrir sa musique. Si on reste uniquement, sur Bandcamp, par exemple, clairement, on va se priver d'une partie du public, quoi.
Alors dans le pitch de la conférence que tu vas donner au Novomax, il est question de leviers incontournables pour les artistes, s'agissant des plateformes de streaming. C'est-à-dire qu'on peut tirer profit,
bien sûr,
tout de même de ce modèle.
Oui, oui. Bah, après, tout le monde ne va pas réussir à tirer profit. En fait, c'est pas magique, quoi. Il y a une chose que certains oublient aussi, c'est que c'est la musique avant tout, quoi. Si vous sortez une musique qui n'est pas très travaillée, qui n'est pas très bien mixée, qui n'est pas très bien masterisée, en fait, ça va pas marcher, parce qu'en fait, c'est vraiment la qualité qui va primer sur le reste. Évidemment, si vous sortez un morceau qui est pas terrible et que vous faites mettez beaucoup d'argent dans une grosse stratégie digitale, il est peu sûr quand même que ça fonctionne, quoi. Donc c'est vraiment la musique avant tout, mais une fois que la musique est vraiment travaillée et que, voilà, c'est des bons morceaux, il y a moyen de rencontrer un public. Après, c'est toujours plus... Il y a, pour certains styles de musique, où c'est plus difficile que d'autres. Par exemple, prenons l'exemple de la chanson française. Si aujourd'hui, vous ne faites pas une chanson française très moderne, un peu comme les standards qui sortent aujourd'hui... En pop française, on va dire, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué parce que il y a quand même des choses que les algorithmes de Spotify ou des algorithmes d'autres plateformes, ou que les curateurs, ce qu'on appelle les curateurs, c'est les gens qui sont derrière Spotify, Apple, et des humains qui vont choisir, eux, de playlister des choses aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les algorithmes, il y a aussi des gens qui travaillent vraiment pour ça. Mais si vous ne faites pas aujourd'hui une musique moderne, il y a quand même, ça va être quand même compliqué, quoi. Surtout en français, parce que évidemment, quand on chante en anglais, on s'ouvre à l'international, ou quand on fait de l'instrumental, par exemple, ce qui est mon cas, on peut s'ouvrir à l'international. Or, en français, on reste sur le territoire. Au pire, on peut aller un peu en Belgique, en Suisse, un peu du côté du Canada, mais encore du Québec. Mais c'est quand même compliqué. Il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de monde, donc c'est un peu plus difficile de sortir. Voilà.
Alors, quels sont les conseils essentiels à donner à des jeunes artistes qui souhaitent partager leur musique sur les plateformes ? Est-ce qu'il y a des outils ?
Alors, il y a pas mal d'outils, ouais. Il y a pas mal d'outils, mais vraiment, le conseil que j'aimerais donner le plus, c'est vraiment prenez soin de votre musique, quoi. C'est vraiment le truc à retenir, parce que souvent, quand on est musicien, et je suis passé par là, on a envie de sortir les choses. On a envie de faire... de faire le plus vite possible, on a envie que notre musique soit disponible au plus grand nombre, mais en fait personne ne vous attend, j'ai envie de leur dire, pour l'instant en tout cas, et prenez le temps de faire vraiment extrêmement bien les choses. Après, oui, il y a des choses à mettre en place. Après, c'est un peu long de donner tous les conseils que je pourrais donner lors de mes conférences, mais
le mieux, évidemment, c'est de venir à la conférence.
Oui, le mieux, c'est de venir à la conférence, mais c'est vrai que il faut pitcher vos titres. Alors, pitcher le titre, ça veut dire présenter son titre au curateur, justement. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Sur Spotify, on a une application qui s'appelle, pour les artistes, qui s'appelle Spotify for Artists, que je conseille à tous les artistes de télécharger. C'est à partir de cette application que vous pourrez faire le pitch Spotify. C'est-à-dire que quand vous chargez un morceau sur votre distributeur, votre agrégateur, le distributeur va le donner à Spotify et aux autres. On parle de Spotify parce que c'est le plus connu. C'est pareil pour Apple, Deezer, tout ça. Mais Spotify a un petit truc en plus, c'est que sur son application, on peut pitcher le titre, c'est-à-dire présenter le titre aux algorithmes et aux curateurs humains qui sont derrière Spotify. Et ça, c'est une chance en plus pour pouvoir être sélectionné dans les playlists. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, les gens écoutent beaucoup de playlists. Et quand un morceau arrive sur une playlist, c'est là où elle sera le plus écoutée. Enfin, clairement. Et c'est là où vous avez la chance de pouvoir générer du revenu, en tout cas. Plus que sur votre page ou plus qu'avec une fanbase même solide, hein, il y a plus de chances quand même sur une playlist d'être très écouté. Donc le premier truc que j'ai à dire, c'est pitcher votre titre sur Spotify et ensuite pitcher votre titre sur des sites comme Groover ou SubmeetHub, qui sont des sites qui permettent de faire le lien entre l'artiste et les playlisteurs indépendants. Donc des playlisteurs comme vous et moi qui ont un jour créé une playlist qui a pris, où il y a beaucoup d'abonnés, qui est très écouté, et en fait vous allez présenter votre morceau, alors évidemment moyennant finance encore une fois, mais vous allez pouvoir présenter votre morceau à ces playlisteurs, ces curateurs comme on les appelle, et ils vont choisir ou pas de les intégrer à leur playlist. S'ils intègrent à leur playlist, ils vous enverront un petit message en disant bah voilà, vous êtes intégré à la playlist, puis vous verrez bien évidemment vos chiffres un petit peu augmenter, et ça c'est quelque chose à faire régulièrement pour chaque sortie.
Pour gagner en visibilité, est-ce qu'il faut aussi absolument fédérer une communauté autour de son projet musical ?
Oui, je pense que c'est important. Ouais. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Je trouve que c'est la base même, en fait. Hein, c'est la base parce que c'est les gens qui vont revenir sur votre profil d'écoute, qui vont partager à leurs amis, qui vont dire « Ah tiens, j'ai fait une découverte, c'est super, écoute ce petit
groupe. » Et ce n'est pas uniquement les copains et la famille.
Non, ce n'est pas uniquement les copains et la famille. Mais évidemment, ça commence par ça. Mais il n'y a pas que ça. Et puis, faites des concerts, rencontrez les gens. C'est le travail du musicien. En fait, aujourd'hui, il y a très peu de musiciens qui vivent avec les streams. Mmh. C'est vraiment... Il y en a vraiment très, très peu, quoi. Mais c'est un outil qu'il faut travailler comme on travaillerait un live, comme on travaillerait une setlist, comme on travaillerait des éléments de communication, des photos de presse et tout ça. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Et je pense que les gens, les artistes, en ce moment, enfin, pas tous, hein, mais passent un peu à côté de ça.
Et est-ce que, puisqu'on est dans une ère numérique, est-ce que ça doit nécessairement passer par une communication sur les réseaux sociaux? On voit par exemple que des titres peuvent percer via TikTok ou via des Reels sur Instagram. Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes, par exemple, peut-être pas connus ou qui n'avaient pas encore, entre guillemets, percé, se vendre sur les réseaux sociaux. Alors, attention, ce n'est pas négatif, mais par exemple, utiliser les algorithmes des Reels de Instagram pour dire « Regardez, moi, j'ai fait ce projet-là, vous plaît, allez streamer. »
Bah, il faut utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition à partir du moment où on est à l'aise avec. Moi, je sais que je fais de la musique instrumentale, plutôt calme. J'ai 40 ans. J'ai passé l'âge d'aller faire. Puis ma musique s'y prête pas, mais j'ai passé l'âge d'aller sur TikTok pour faire de la promo de ma musique. Mais je pense que si vous avez 25 ans, que vous êtes à l'aise avec l'outil et que il faut y aller. En fait, tout peut servir votre projet, mais à condition d'être sincère, je pense, d'être sincère dans la démarche et d'utiliser les outils qui vous conviennent le mieux, quoi. On n'est pas obligé de tout utiliser, c'est clair.
Évidemment, pour percer sur les plateformes, il faut créer sa communauté, et puis communiquer autour de son projet musical. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, de tout de même gagner de l'argent sans ça, c'est-à-dire en trouvant sa place, en faisant des dates, vendant du physique, des CD, des vinyles? Est-ce que ça marche encore
sans du tout le streaming? Y a des gens qui y arrivent, je pense. Je pense que les groupes qui sont ancrés dans un business model qui leur va bien, ça peut être de la folk ou de la chanson française aussi, beaucoup qui vont jouer dans des centres culturels où il va y avoir une programmation à l'année qui est dans leur style, où ils vont vendre beaucoup d'albums. Oui, ça se fait. Enfin, clairement, ça se fait encore de moins en moins.
Et on peut avoir les deux, c'est-à-dire que ça peut être complémentaire.
Oui, 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 bien sûr. Ça se fait de moins en moins, mais enfin, on voit bien. Je vois bien depuis le, on va dire, 2-3 ans. Moi, j'ai pressé mes disques en vinyle et en CD. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, les ventes ont diminué. Les ventes ont diminué parce qu'aujourd'hui, tout est disponible sur les plateformes. Mais il y a encore des gens qui seront peut-être d'une génération entre 40 et 70 qui vont encore acheter du vinyle et du CD. Mais voilà, il ne faut pas presser, quand on est un petit groupe, il ne faut pas presser 5000 vinyles, quoi, ça ne sert à rien. Il faut mieux faire des séries limitées, coûter moins d'argent, être écolo aussi, ne pas polluer, parce que c'est vrai que si on se retrouve avec énormément de vinyles sur les bras, ça nous est tous arrivé en tant qu'artiste, c'est compliqué quoi après. Mais oui, les deux fonctionnent encore.
Et donc aujourd'hui, il y a des artistes qui peuvent déjà rencontrer des difficultés à émerger, font face à une concurrence un peu déloyale, qui est celle des morceaux générés par IA, ouais. Qui sont assez fréquents sur les plateformes.
Ouais. 30%.
C'est quand même assez décourageant, quoi. Ouais, 30%, c'est...
30%, ouais, c'est très décourageant. Surtout que cette IA vient piller tous les morceaux qui ont existé et qui existent. Et du coup, nous, les artistes, nous ne sommes pas rémunérés pour ça. C'est-à-dire que l'IA va piller notre musique, que ce soit... celle de grands artistes, mais aussi les plus petits artistes, et va en faire des copies, entre guillemets, mais l'IA est assez maligne pour pas que ce soit trop... voilà. Et puis la loi est pas encore... il y a un flou juridique, quoi, donc c'est compliqué, mais il faut légiférer là-dessus.
C'est ce que j'allais demander, est-ce qu'il faut légiférer
Bien sûr, il faut légiférer là-dessus, mais le problème, c'est que les lois mettent toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à arriver et la technologie, non. Donc,
oui, c'est vrai que l'IA, il y a quelques années, ça s'entendait. Maintenant, ça peut être très difficile parfois de faire la distinction.
C'est compliqué, oui. Quand vous mettez une playlist chez vous et que vous écoutez un morceau d'IA ou 3-4 dans la playlist, vous vous en rendez même pas compte. Mmh. Hein, c'est terrible.
Pour ce qui est de légiférer, est-ce qu'il faut aussi légiférer autour de la rémunération des artistes? Malgré que parfois la gouvernance est internationale, enfin, pour Spotify ça se décide ailleurs.
Ça se décide ailleurs, mais il aurait fallu déjà le faire, mais il faudrait que tous les pays aient la même loi là-dessus, quoi, et qu'on ait une loi internationale sur le fait que c'est tant et c'est pas pourquoi c'est rémunéré. Tant chez Spotify, et puis un peu plus chez Apple, et puis un peu plus chez Qobuz. C'est absurde, quoi. Il faudrait pouvoir être rémunéré décemment, en tout cas, partout, quoi.
Pour un peu faire une question de synthèse, puisqu'on arrive un peu à la fin de cet entretien, dans l'idée d'adopter une stratégie digitale dans sa façon de créer de la musique, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être un peu influencé dans sa manière de faire de la musique ? C'est-à-dire de créer pour plaire et non plus de créer pour créer, ce qui est quand même la base de tout artiste.
Créer pour plaire, c'est dans la base de tout artiste, quoi. Je veux dire, on crée pour plaire, on crée pour déplaire aussi des fois, pour chercher le clash, pour chercher le on crée pour donner un avis politique, on crée pour plein de choses, mais créer pour plaire, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui allaient faire du mainstream parce que non seulement ça plaisait aux foules, ça plaît aux foules, mais ça leur plaît à eux aussi, en fait. Non, je crois pas. Après, ce qu'on pourrait reprocher à ça, c'est peut-être la standardisation plutôt de la musique, quoi. C'est-à-dire que dans certains styles, on va faire attention de ne pas dépasser les 2 minutes 30, parce qu'on sait que 2 minutes 30, 3 minutes, si ça va au-delà, ça rentrera plus difficilement en playlist. Mais aux plateformes de playlister des morceaux, des gros morceaux, des morceaux qui durent 5-7 minutes, voire plus pour ce qui est du post-rock ou de la prog, ou je sais pas, enfin, mais Mais il y a toujours eu des artistes qui faisaient de la musique pour plaire, et on a tous envie que notre musique plaise, justement. Donc on fait en sorte que... Alors oui, on fait en sorte qu'elle plaise, des fois, à juste une partie, à une, ce qu'on appelle une niche, Non, c'est plus la standardisation qui me fait un petit peu peur. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi ? Pour rentrer dans les playlists.
Dans les codes.
Ça, c'est un petit peu dommage.
Il faut rester optimiste. Pour un artiste, c'est quand même possible aujourd'hui de percer sans forcément se plier.
Ouais, alors percer, c'est aujourd'hui un grand mot parce que, en fait, tu vas pas vraiment... Enfin, c'est
ou
pas
en
parce
tout
que
cas,
tu...
J'allais dire, peut-être à la place plutôt de percer, qui est pas très beau comme mot, mais aussi juste vivre de sa musique.
Oui, alors vivre de sa musique, c'est faisable, surtout en France où on a la chance d'avoir l'intermittence. Mais pour vivre uniquement du streaming, c'est quand même compliqué. Il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup d'auditeurs par mois. Et personnellement, moi, sur mon projet, j'arrive à... Enfin, un projet qui a débuté en 2017 et qui a aujourd'hui 13 millions de streams, c'est, pour la plupart des gens, c'est énorme. Mais ça ne me permet pas, évidemment, de vivre de la musique. Uniquement du streaming. Moi, je suis musicien à côté, je fais de la musique pour l'image, je fais des arrangements pour d'autres artistes. Évidemment, il y a le stream, il y a les concerts, il y a plein d'autres choses qui font que je peux vivre de la musique, mais pas uniquement le stream. Au mieux, ça me fait un 13 ou un 14e mois, mais généralement pas plus, quoi.
Et ben, merci beaucoup,
merci
Sylvain Texier, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, on peut retrouver la conférence un peu partout en Bretagne.
Oui, alors là, ce qui se fait, c'est le 15 octobre à l'Econova, à Vannes. Et il y a aussi une séance au 6x4 à Laval, mais je ne sais plus la date.
C'est fin du mois. Le jeudi 23 octobre. Et on se quitte sur quelques notes de ton dernier titre, D'or, qui est paru le 5 septembre. Merci beaucoup et puis bonne
Merci.
Conférence.
Merci.